Il y a 100 ans, en avril 1922, Einstein fit une visite à Paris. C'était au lendemain de la Grande Guerre et les scientifiques allemands étaient frappés d'ostracisme en France. Paul Langevin, bravant les réticences de ses collègues de l'Académie des sciences, invita son ami à présenter au Collège de France et à la Sorbonne sa théorie de la relativité, dont l'aspect principal était une remise en cause profonde de la nature du temps, comme nous l'avons entendu dans l'exposé précédent de Claudine Tiercelin. Au cours de ces conférences, Einstein rencontra notamment Paul Painlevé et Henri Bergson. Le premier, mathématicien mais aussi ancien et futur président du Conseil, avait tenu à écouter Einstein et à participer au débat scientifique qui avait été occasionné par sa visite. Qu'un homme politique de premier plan s'intéresse avec compétence à la science est un événement assez rare pour mériter d'être noté. Je crois que c'était l'un des grands événements de cette rencontre au Collège de France. Quant à Bergson, il semble que le débat entre le philosophe et le physicien ait été, d'après les témoins, un dialogue de sourds, opposant le tenant du temps de la conscience au défenseur sans concession du temps du physicien. Sans nous comparer, Claudine Tiercelin et moi, à nos deux illustres prédécesseurs, je ne peux m'empêcher, puisque les organisateurs de ce colloque nous ont rassemblés dans une même session, de faire le parallèle avec ce fameux débat d'il y a un siècle. Il y a peu de concepts plus intuitifs et pourtant plus difficiles à comprendre dans sa complexité que celui du temps, comme nous l'avons entendu. Nous sommes tous conscients du temps qui s'écoule, de la fuite du temps perdu, de la flèche du temps qui nous conduit irréversiblement du passé vers le futur. Face à ces évidences, les physiciens parlent depuis un siècle d'un espace-temps courbe dans lequel distance spatiale et durée se mélangent de façon intime, d'un temps relatif à l'observateur qui le voit s'écouler différemment suivant la vitesse avec laquelle il se déplace ou le lieu où il se trouve. D'un temps en somme émietté, éparpillé en autant de réalisations qu'il y a de points de vue. Cette complexité conduit même certains à dire que le temps n'existe pas, qu'il n'est qu'une illusion. Cette affirmation péremptoire avait été reprise par la presse pour s'en moquer au moment même du débat Einstein-Bergson, comme l'illustre cette bande dessinée parue dans Le Petit Parisien du 1er avril 1922. Cette plaisanterie, s'il l'avait vue, n'aurait sans doute pas amusé Einstein, car elle reflétait le scepticisme, voire l'hostilité que rencontrait sa théorie auprès du public ou même auprès de collègues qui, par antisémitisme en Allemagne ou par sentiment anti-allemand en France, rejeter sa théorie comme une bizarrerie en soutenant qu'il n'existe qu'un seul vrai temps, fixe, stable et rassurant, celui de nos états successifs de pensée et de rythme biologique qui ne peuvent être réellement affectés par nos mouvements ou positions dans l'espace. Cette hostilité n'était certes pas partagée par Bergson qui cherchait à démontrer la compatibilité entre le temps du philosophe et le temps du physicien, mais d'après les témoins, Einstein réagit sans doute aux avances conciliantes de Bergson avec une raideur motivé par son agacement face à ses résistances, qu'elles soient bien ou mal intentionnées. Seules deux observations astronomiques à l'époque validaient la théorie de la relativité. Elles montraient un infime écart avec la physique de Newton et étaient bien expliquées par la théorie de la relativité. L'une concernait l'infime précession du périhélie de Mercure, une précession de 43 secondes d'arc par siècle qui avait été mesurée par Le Verrier, et l'autre, la déviation de moins d'une seconde d'arc de la lumière d'une étoile rasant le Soleil pendant l'éclipse de 1919. C'était très peu, et le fait que Einstein soit devenu mondialement célèbre pour une seconde d'arc est absolument remarquable. C'était très peu pour convaincre les sceptiques qu'ils devaient admettre les conséquences profondes et contre-intuitives qu'Einstein en déduisait sur la nature du temps. Le physicien allemand n'avait finalement pour défendre son point de vue que la force de sa conviction, basée sur l'analyse d'expériences de pensée, conceptuellement simple, mais impossible à réaliser à l'époque, avec les ordres de grandeur qu'on était capable de faire, et les effets attendus étaient totalement inobservables. L'une de ces expériences de pensée, au résultat initialement contesté par Painlevé et Bergson, conduisait au fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Langevin, qui avait invité Einstein, donc, avait décrit comment un jumeau, voyageant dans l'espace sur un boulet à la manière imaginée par Jules Verne, mais à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, pourrait revenir sur Terre et retrouver son frère devenu beaucoup plus vieux que lui. Il s'agissait là d'un véritable voyage dans le futur, plus qu'un simple effet de perspective. Un siècle plus tard, même si personne ne remet plus en cause la validité de la théorie de la relativité, Il faut bien admettre que bien peu la comprennent vraiment. Elle reste pour le public une théorie ésotérique, loin des préoccupations quotidiennes. Et pourtant, je voudrais rappeler ici combien le temps du physicien, celui d'Einstein, mesuré de façon de plus en plus précise au cours des siècles, a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans le développement des théories scientifiques les plus profondes et dans les activités humaines les plus banales. Commençons par une définition du temps physique, celle donnée par Einstein lui-même. Très simplement, le temps est ce que mesurent les horloges. Cela ramène bien sûr à la question, qu'est-ce qu'une horloge ? L'horloge est un dispositif qui compte les occurrences successives d'un phénomène périodique qui se répète continuellement à l'identique, qu'il s'agisse d'un système astronomique, d'un appareil mécanique, électrique ou plus récemment d'un système d'atomes. Qu'on puisse qualifier tous ces systèmes divers d'horloges mesurant une quantité objective, un temps physique réel, relève de l'expérience, de la constatation que si deux instruments sont bien réglés, leur nombre d'oscillations respectives reste dans un rapport constant et immuable. On peut comparer les horloges et elles indiquent toutes le même temps. Le travail des physiciens et des horlogers au cours des siècles a consisté à construire de telles horloges de plus en plus précises, à les comparer entre elles et à constater la constance du rapport de leur fréquence. Que ce travail ait été possible, qu'il ait conduit à des instruments de plus en plus perfectionnés, est la preuve pour les physiciens qu'il existe un temps observable. Et ce temps est sans aucun doute la quantité qu'ils savent mesurer avec la plus grande précision et de très loin, comme nous le verrons à l'instant. Ainsi, pour les physiciens et les horlogers, il est absurde de dire que le temps qu'ils se sont appliqués à mesurer de façon de plus en plus précise n'existe pas ou n'est qu'une illusion. Pour réaliser leur comparaison, les horlogers ont dû, au cours des siècles, inventer des procédures pour synchroniser et comparer les horloges entre elles. L'un des problèmes qui a fini par se poser à la fin du XIXe siècle, avec le développement des transports, en particulier des lignes de train de plus en plus nombreuses qui reliaient entre elles des gares qui devaient marquer la même heure, et le développement des communications, donc l'un de ces développements a été celui de la définition de la simultanéité des événements éloignés dans l'espace, et c'est en s'attaquant à ce problème qu'Einstein a été conduit à élaborer sa théorie de la relativité restreinte puis générale. C'est en précisant toutes les conséquences des expériences de pensée visant à comparer les temps mesurés par des horloges situées en des endroits différents et se mouvant les unes par rapport aux autres qu'Einstein a établi les principes qui ont montré comment le temps est relatif à l'observateur qui le voit s'écouler. La propagation de signaux lumineux entre événements séparés dans l'espace et le temps joue un rôle essentiel dans cette théorie qui met le caractère constant de la vitesse de la lumière au centre de la physique. La relativité ne conduit pas à une mise en cause du caractère objectif du temps, mais au contraire, elle établit les conditions permettant de définir le temps comme une quantité mesurable avec une extrême précision partout sur la Terre et au-delà dans l'univers dans lequel nous vivons. Je ne donnerai du principe de la relativité qu'un bref aperçu pour éclairer en particulier la question des jumeaux de Langevin. Einstein n'a fait au départ que reprendre l'idée de Galilée, affirmant l'impossibilité pour un observateur de déterminer par une expérience de mécanique s'il est immobile ou en mouvement à vitesse constante. Ceci est décrit en particulier dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde par Galilée. Nous avons tous ressenti cette impossibilité dans un bateau, un train ou un avion en translation parfaitement uniforme. Nous la ressentons également sur la Terre, que nous savons se propager à grande vitesse autour du Soleil, mais qui nous semble immobile. Einstein n'a fait qu'étendre cette propriété des lois de la mécanique à celle de l'optique. La vitesse de la lumière doit être constante, la même pour tous les observateurs en mouvement uniforme les uns par rapport aux autres, car sinon, ils pourraient, en mesurant la vitesse dans leur repère, déterminer s'ils bougent ou non par rapport au repère privilégié où cette vitesse vaut 300 000 km par seconde. Et s'ils pouvaient le faire, ce serait en violation avec le principe de relativité. Einstein a imaginé à partir de cette idée la simple expérience de pensée suivante. Deux amis, que j'appellerai Alice et Bob, veulent comparer le temps écoulé dans leurs repères respectifs, le quai de la gare pour Alice et le wagon d'un train passant devant ce quai à vitesse uniforme dans lequel se trouve Bob. Ils ont auparavant synchronisé deux horloges optiques identiques dans lesquelles une brève impulsion lumineuse fait des allers et retours entre deux miroirs parallèles. Dans l'horloge d'Alice, l'impulsion lumineuse monte et descend. À chaque rebond sur l'un des miroirs, une petite fraction de la lumière s'échappe et est détectée par une cellule photoélectrique dont la suite des clics mesure le passage du temps. Alice regarde l'horloge de Bob, dont les miroirs sont dans un plan parallèle à la direction du train qui passe devant elle. Le trajet en zigzag parcouru par la lumière entre les miroirs mouvants de Bob est plus long, évidemment, que celui qu'elle observe dans son propre repère. C'est simplement le théorème de Pythagore qui indique cette augmentation du trajet vu par Alice. Comme la vitesse de la lumière est la même dans les deux repères, elle constate donc que Bob compte moins de clics qu'elle, que le temps de l'horloge de son ami bat plus lentement. Et il doit en être de même pour tous les autres horloges qu'il pourrait comparer. Certains disent que c'est une horloge très spéciale qui utilise des clics lumineux, mais si Alice et Bob ont également synchronisé deux chronomètres et que Bob en a emporté un avec lui, le chronomètre de Bob va ralentir également, parce que s'il ne le ralentissait pas, Bob aurait à sa possession deux horloges qui indiquent des temps différents, et il saurait donc qu'il est en mouvement, en contradiction avec le principe de relativité. Donc, toutes les horloges, qu'elles soient biologiques ou physiques ou chimiques, indiquent le même temps, et le temps s'écoule plus lentement pour Bob que pour Alice. Reprenons maintenant cette expérience en plaçant Bob non plus dans un train, mais sur un manège tournant à grande vitesse. Ce mouvement fait ressentir à Bob une force inertielle centrifuge qui le pousse vers la périphérie du manège. Cette force, créant une accélération indépendante de la masse qu'il a subie, est analogue à une force de gravitation. Et Galilée avait marqué cette identité de la chute des corps pour toutes les masses, ce qui est également une idée qu'Einstein a reprise. Étendant le principe de la relativité aux mouvements accélérés, Einstein a postulé qu'il était impossible pour un observateur de savoir par une expérience de physique s'il est dans un repère accéléré comme un manège ou dans un repère immobile soumis à un champ de gravitation. Le temps doit ainsi se comporter de la même façon dans les deux cas. Supposons donc que Bob ait dans son manège deux horloges, l'une immobile au centre du disque là où il n'y a pas d'accélération et une sur la périphérie du disque qui tourne très vite et subit une forte force centrifuge. Cette seconde horloge, en mouvement rapide par rapport à la première, bat donc moins vite, d'après le principe de relativité restreinte. L'analogie entre force inertielle et force de gravitation nous dit donc qu'une horloge doit être d'autant plus ralentie qu'elle est plus proche de la masse planète ou étoile qui crée le champ de gravitation qu'elle subit. Le temps dépend ainsi non seulement de la vitesse, mais aussi de la position des horloges. Et si le bord de l'horloge atteint la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Et le champ de gravitation correspondant correspond au champ qui se trouve à l'horizon d'un trou noir. Donc la relativité restreinte et la relativité générale expliquent cette relativité du temps relative à la vitesse et à la position des horloges. À l'époque d'Einstein et de Bergson, le ralentissement relatif du temps lié à la relativité restreinte ou à la gravitation était, je l'ai déjà dit, beaucoup trop petit pour être mesurable. Dans le cas de l'exemple du train, ce ralentissement est de l'ordre du carré du rapport de la vitesse du wagon à celle de la vitesse de la lumière, un nombre de l'ordre de 10-14, c'est-à-dire un zéro suivi de 13 zéros après la virgule. Et c'est ces ordres de grandeur qui expliquent que nous n'avons pas l'intuition des effets de relativité. Pour comprendre comment ces effets a priori infimes sont devenus mesurables et importants dans notre vie quotidienne, nous devons faire quelques rappels sur l'histoire de la mesure du temps. Elle se caractérise par une progression constante de la précision des mesures avec une règle très simple et évidente. Cette précision est grosso modo proportionnelle à la fréquence des horloges. Elle est d'autant plus grande que cette fréquence est plus élevée. La course à la précision a donc été une course à la capacité de compter les oscillations de plus en plus rapides, correspondant à des périodes de plus en plus courtes. Et à chaque fois qu'un progrès a été accompli dans ce sens, de nouveaux phénomènes se sont révélés qui nous ont permis d'approfondir nos connaissances. Alors, je vais essayer de passer en revue cette histoire de la mesure du temps. Au Moyen Âge, le temps des horloges qui étaient installées dans les clochers d'église était rythmé par les oscillations d'un folio horizontal, un bras en bois horizontal, auquel la torsion de la longue corde à laquelle il était attaché effectuait de lentes oscillations avec une période de quelques secondes. La précision était très médiocre, de l'ordre du quart d'heure par jour. Il fallait remettre les horloges à l'heure tous les jours, ce qui correspond à une incertitude de l'ordre de 1%. Un quart d'heure, c'est à peu près un centième de jour. 10-2 dans le langage mathématique des physiciens. Au XVIIe siècle, Huygens, s'appuyant sur les travaux de Galilée, de mécanique de Galilée, fit faire des progrès énormes à la mesure du temps en inventant l'horloge qui compte les oscillations d'un pendule dont la longueur est de l'ordre d'un mètre, qui bat approximativement la seconde, avec un mécanisme d'échappement compensant par la descente d'un poids dans le champ de pesanteur terrestre l'amortissement par frottement de l'amplitude des oscillations mesurées. Donc il s'agit des pendules que nous avons tous vues dans certaines maisons. Ces pendules avaient une incertitude de l'ordre d'un 1/10, soit 10⁻⁴, deux ordres de grandeur de mieux que les horloges précédentes. Cela signifie qu'un ensemble d'horloges construites suivant le même plan présentait au bout d'un jour une dispersion du temps mesuré d'une 10aine de secondes, un jour comptant 86 400 secondes, 10⁻⁴ représente environ 8 secondes. Et c'est un ordre de grandeur très important, comme nous allons le voir. Ce sont ces horloges pendulaires qui permirent les premières mesures précises de la physique moderne, en particulier celle de la première estimation de la vitesse de la lumière. Comme cette vitesse est centrale dans la théorie de la relativité, je dois dire quelques mots de cette première mesure qui se fit dans un contexte astronomique jouant un rôle essentiel pour la navigation et la cartographie. Et on retrouve à nouveau Galilée. Galilée n'a pas été que le premier à établir les lois du mouvement des corps dans le champ de gravitation, il a aussi été le premier à utiliser une lunette pour observer le ciel. En 1610, il a découvert que Jupiter possédait des satellites gravitant autour de la planète. C'était une confirmation des idées de Copernic et de Kepler qui s'opposaient au dogme de l'Église affirmant que le ciel tournait autour de la Terre. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, au-delà de la confirmation du modèle copernicien qui causa, comme vous le savez, à Galilée des ennuis avec l'Inquisition, il y avait dans cette découverte en germe un point essentiel pour la mesure du temps. Jupiter et ses satellites constituaient une horloge universelle, visible de toute la Terre, pouvant servir de référence temporelle à tous les marins et marchands naviguant à cette époque sur les océans pour explorer le monde et se livrer au commerce des richesses provenant des contrées lointaines. C'est pourquoi, 50 ans après Galilée, un autre savant italien, Cassini, nommé par Louis XIV, directeur de l'Observatoire de Paris qui venait d'être construit, décida d'étudier avec précision l'horloge naturelle de Jupiter. Il confia à un jeune astronome danois, Rømer, rien à voir avec notre administrateur, je pense, la tâche de tabuler les instants où Io, le satellite le plus proche de Jupiter, ressortait de l'ombre de la planète après chaque révolution. Rømer se servait pour cela d'une des horloges inventées par Huygens, qui était un savant hollandais attaché lui aussi à l'Observatoire de Paris. La période de Io étant d'environ deux jours terrestres, l'incertitude des horloges de Huygens était juste suffisante pour effectuer une mesure assez précise pour étudier la régularité du mouvement de Io à quelques secondes près par révolution. Et donc ces quelques secondes étaient cruciales. Accumulant les données de jour en jour, Rømer s'aperçut que Io réapparaissait à chaque fois avec un petit décalage, soit en avance, soit en retard par rapport à la fois précédente. Il comprit que cela était dû au fait que la Terre, suivant la saison, s'éloigner ou se rapprocher de Jupiter, et qu'il fallait donc corriger la mesure de la période de Io du temps que la lumière mettait à franchir la distance que la Terre avait parcourue pendant que Io faisait un tour autour de la planète. Cette distance pouvait être évaluée, car les mesures astronomiques associées à la nouvelle théorie de gravitation de Newton commençaient à donner une valeur approximative du rayon de l'orbite terrestre. Et j'insiste sur la convergence entre les différentes sciences. Il fallait une horloge assez précise, il fallait également avoir une théorie du mouvement des planètes autour du Soleil. Rømer conclut ainsi de ces mesures que la lumière se propageait avec une vitesse très grande, mais finie, de l'ordre de 50 000 lieues par seconde, soit environ 200 000 km par seconde. Nous savons aujourd'hui que la vraie valeur est plus grande, proche de 300 000 km par seconde. L'erreur de Rømer était due au fait que la précision de l'horloge qu'il utilisait était à peine suffisante pour déceler les faits qu'il avait mis en évidence. En quoi la tabulation de Rømer pouvait-elle servir au navigateur? S'il disposait à bord d'une lunette astronomique, il pouvait en principe observer les instants où Io réapparaissait à l'endroit où il se trouvait. Cela leur permettait, par comparaison avec les tables de Rømer, qui leur donnaient l'heure qu'il était à Paris à ce moment-là, d'évaluer le décalage horaire entre la position et celle de Paris, d'où l'estimation de leur longitude. Le problème était la difficulté d'installer une lunette et de la pointer vers Jupiter sur un bateau roulant et tanguant sur des mers agitées. La mesure n'était possible que lorsque les navires abordaient et les navigateurs s'empressaient alors d'effectuer leur mesure en transportant leurs lunettes sur la terre ferme. L'horloge universelle de Jupiter et ses satellites servit ainsi pour la cartographie des terres lointaines, mais non directement pour la navigation dont le but était de déterminer la position des bateaux en pleine mer. Il fallait pour cela garder l'heure du port d'origine sur des intervalles de temps très longs. Les horloges pendulaires de Huygens n'étaient pas adaptées à cette tâche pour la même raison que la lunette de Galilée. Soumises au roulis et au tangage, elles perdaient leur précision et étaient incapables de garder l'heure d'origine. Il fallait des horloges plus compactes, peu sensibles aux accélérations imprévisibles. L'étape suivante dans le progrès de la mesure du temps fut la mise au point de dispositifs comptant non plus les périodes lentes d'un pendule, mais les oscillations environ 100 fois plus rapides d'un petit ressort en spirale enfermé dans un boîtier compact et résistant. Harrison, un horloger anglais, réussit à construire un tel dispositif après de longs et patients essais, et il gagna le concours que l'amirauté anglaise avait instauré pour la réalisation d'un chronomètre marin, gardant le temps sur les périodes qu'il fallait au navire de l'époque pour effectuer la traversée des océans. C'était plutôt un dixième de seconde par jour qui correspondait à une dizaine de secondes par mois, qui était à peu près ce qu'il fallait. La comparaison du temps indiqué par ces chronomètres avec l'heure locale donnée par les observations astronomiques permet la détermination des longitudes en mer avec une précision de quelques kilomètres, ce qui fut un progrès considérable. L'incertitude de la mesure du temps gagna ainsi au XVIIIe siècle deux ordres de grandeur, à chaque fois deux ordres de grandeur, donc passant de 10-4 à 10-6, et les temps étaient gardés avec une incertitude d'environ un dixième de seconde par jour. C'est le cas du chronomètre qui est conservé au musée de Greenwich en Angleterre, qui était celui que Cook avait emporté dans son exploration autour du monde. Il fallut plus d'un siècle pour le progrès suivant. En 1880, Pierre Curie et son frère Jacques découvrirent l'effet piézoélectrique. Exercer une pression sur un cristal de quartz fait apparaître des charges électriques positives et négatives sur les faces opposées. Si ce cristal vibre sous l'effet d'une pression acoustique modulée dans le temps, la variation périodique des charges sur ses faces correspond à un courant électrique alternatif. Il est ainsi possible d'établir un couplage entre les oscillations mécaniques du cristal, ici par exemple celle d'un petit diapason, avec un circuit électrique. La fréquence des vibrations ainsi générées est de l'ordre de 10 000 à 100 000 périodes par seconde, et on gagne encore un facteur de l'ordre de 100 à 1000 sur la fréquence. Les oscillations sont 100 à 1000 fois plus rapides que celles des ressorts des montres mécaniques, et la précision des horloges à quartz suit cette progression. Les plus précises gardent le temps avec une incertitude de l'ordre de 10-8, donc on a encore gagné deux ordres de grandeur, soit environ une milliseconde par jour. Avec cette précision, on a commencé à se rendre compte que la rotation de la Terre n'était pas si régulière que ça. Ces horloges à quartz sont plus précises, plus régulières que les rotations astronomiques. Il a fallu une quarantaine d'années après la découverte fondamentale des Curie pour mettre au point le dispositif électronique de ces horloges qui apparurent dans les années 1920, à l'époque de la visite d'Einstein au Collège de France. Et vous voyez ici une image montrant les horloges à quartz du bureau des standards des USA. Il a fallu pour ça le développement des lampes à vide qui s'est fait grâce aux communications pendant la Première Guerre mondiale. Et je crois que cette histoire illustre également ce que le professeur Tarascon a expliqué ce matin sur le délai qui se passe souvent entre la découverte fondamentale et les applications, délai qui dépend des progrès de la technologie et, dans ce cas précis, des progrès qui malheureusement ont été accélérés par la guerre. À partir de là, les progrès s'accélérèrent encore. À peine trois décennies passèrent pour voir apparaître dans les années 1950 les premières horloges atomiques. Elles comptent la fréquence de rotation du moment magnétique électronique d'atomes de césium ou de rubidium. Ces moments magnétiques sont de petits aimants, appelés spins, portés par les électrons atomiques et tournant comme des toupies dans le champ magnétique produit par le noyau des atomes. La fréquence de ces rotations est de l'ordre de 10 milliards de périodes par seconde, soit un facteur de l'ordre d'un million plus élevé que les fréquences des horloges à quartz. Ces fréquences tombent dans le domaine des micro-ondes, celui des ondes de longueur d'onde millimétrique. Ces ondes sont celles qu'utilisent les radars qui furent mis au point par les Anglais et les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la mesure du temps, qui avait bénéficié avec les horloges à quartz des progrès de la technologie de la Grande Guerre, profita de ceux de la Seconde Guerre mondiale pour le développement des horloges atomiques. Et la précision de ces nouvelles horloges suivit la même progression que celle de leur fréquence. De la milliseconde, l'incertitude fit un bond de 5 ordres de grandeur et passa à la nanoseconde, 1 milliardième de seconde par jour, soit une incertitude relative de 10-14. Pour le dire autrement, cette petite incertitude signifie que deux horloges à césium, synchronisées aujourd'hui, ne dériveront pas de plus d'une seconde en 100 000 milliards de secondes, soit environ 3 millions d'années. Donc on arrive à des aires géologiques. Pour effectuer ce bond de précision gigantesque, un gain en puissance de 10 plus important en quelques années que les progrès précédents qui mirent plusieurs siècles, les physiciens exploitèrent la compréhension des lois du monde microscopique apportées par la physique quantique, une révolution dans les connaissances qui était en train de s'élaborer dans les années 1920. Il en fut d'ailleurs aussi question dans les discussions accompagnant la visite d'Einstein à Paris, car celui-ci fut aussi l'un des pères de cette nouvelle physique qui, avec la théorie de la relativité, a profondément modifié notre vision du monde. La physique quantique apporte un élément supplémentaire de précision à la mesure du temps. Les atomes sur les oscillations desquels sont asservies les nouvelles horloges sont, par l'un des principes mêmes de la théorie quantique, tous identiques, alors que les horloges mécaniques ou à quartz sont des artefacts construits par l'homme et que leurs propriétés dépendent de paramètres comme la longueur du pendule ou les ressorts des montres et les caractéristiques géométriques des cristaux de quartz qui varient avec la température et l'usure de leurs composants, les atomes de césium ou de rubidium sont des entités immuables et inusables qui oscillent à des fréquences ne dépendant que des constantes fondamentales de la nature. Ainsi, deux horloges à césium ont en principe la même fréquence et leurs battements ne diffèrent l'une de l'autre que par une quantité infime liée aux petites imperfections résiduelles de leur asservissement aux atomes qui les pilotent. La mise au point de ces asservissements et le comptage précis de leur fréquence demanda, comme celui des horloges à quartz, quelques dizaines d'années. Ce fut dans les années 1970 et 1980 que ces horloges atteignirent le niveau de précision et de stabilité que je viens d'évoquer. On décida alors de définir la seconde, qui jusqu'alors était basée sur des mesures astronomiques, sur la période de l'horloge à césium, beaucoup plus immuable et précise que celle de la durée du jour astronomique. Les horloges atomiques conduisirent rapidement à un progrès foudroyant de la navigation. En les embarquant dans des satellites gravitant autour de la Terre, les ingénieurs construisirent le Global Positioning System, le GPS. Des horloges recalées entre elles tous les jours à la nanoseconde près pilotent des sources d'impulsions micro-ondes que reçoivent, par exemple, nos téléphones portables. Les instants de réception de ces signaux permettent de remonter à la distance qui nous sépare des satellites à chaque instant et d'obtenir par un calcul simple de triangulation notre position n'importe où sur la Terre à quelques mètres près. Les horloges atomiques sont ainsi des descendantes infiniment plus précises des chronomètres de Harrison emportés dans leur voyage par les explorateurs du XVIIIe siècle. Une anecdote à propos du GPS, réelle ou apocryphe, nous renvoie au débat entre Einstein et Bergson de 1922. Les ingénieurs américains qui ont mis au point le GPS ont dû inventer l'algorithme qui, à partir du temps d'arrivée des signaux sur nos détecteurs, permet de remonter à notre position. Les physiciens les avaient prévenus que le temps écoulé mesuré par les horloges gravitant autour de la Terre était différent de celui écoulé à la surface de notre planète. D'une part, les satellites se déplacent à une vitesse de quelques kilomètres par seconde et la théorie de la relativité restreinte nous dit que leur temps s'écoule alors plus lentement que le nôtre, c'est l'effet jumeau de Langevin, conduisant à une correction de quelques microsecondes par jour. D'autre part, ces satellites gravitent à une altitude de quelques milliers de kilomètres, ce qui fait qu'ils sont dans un champ de gravitation plus faible que la surface de la Terre et qu'en vertu de la théorie de la relativité générale, leur temps est affecté d'une autre correction de quelques dizaines de microsecondes par jour, allant en sens inverse de la précédente. Les ingénieurs n'étant pas des physiciens théoriciens, restaient dubitatifs, considérant un peu comme les personnes dont j'ai parlé au début de cet exposé, que la relativité était une théorie vaguement ésotérique qui ne pouvait avoir d'influence pratique sur le vrai temps. Ils commencèrent donc par utiliser des algorithmes négligeant les prescriptions d'Einstein et réalisèrent vite que le GPS était ainsi réglé, donnait des indications fausses de plusieurs kilomètres. En incluant les corrections relativistes dans les calculs, ils finirent par faire fonctionner le GPS correctement. Cette histoire n'est peut-être pas vraie, mais en tout cas, elle est bien inventée. Elle illustre l'importance de la recherche fondamentale dans la mise au point des dispositifs pratiques de notre vie quotidienne. On peut dire que nous tous qui utilisons le GPS tous les jours, nous vérifions, souvent sans le savoir et nous en rendre compte, les prédictions les plus contre-intuitives de la relativité, donnant ainsi raison à Einstein contre Bergson. Un ultime chapitre de cette histoire est en train de s'écrire aujourd'hui avec le développement des horloges atomiques optiques. Des atomes refroidis et immobilisés par la lumière de faisceaux laser intenses sont excités par un laser sonde dont la fréquence ultra-stable est asservie à celle extrêmement bien définie d'une transition portant un électron de ces atomes d'une orbite à une autre. La lumière de ce laser oscille à une fréquence optique de l'ordre de quelques centaines de térahertz. Le térahertz, c'est 1000 milliards d'oscillations par seconde. Et là, on parle donc de centaines de milliers de milliards d'oscillations par seconde, cinq ordres de grandeur plus grandes que celles de la micro-onde de l'horloge à césium. Un dispositif laser auxiliaire, appelé peigne de fréquence, permet de diviser par un entier très grand la fréquence optique pour la ramener à une fréquence directement compatible, directement comptable par un circuit électronique. Ce peigne de fréquence est un laser oscillant simultanément sur un grand nombre de fréquences équidistantes, et la fréquence du laser sondant la transition atomique est comparable comparée à celle des modes Dupin de fréquence, ce qui stabilise l'ensemble des modes Dupin et leurs différences de fréquence qui tombent dans le domaine des micro-ondes. Donc il s'agit d'un diviseur de fréquence exact, et ces horloges ultra rapides ont une incertitude qui a gagné 5 ordres de grandeur, qui est de l'ordre de 10⁻⁹ par jour, c'est-à-dire que deux horloges optiques qui auraient été synchronisées, cette fois-ci au moment du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, ne dévieraient pas l'une de l'autre de plus d'un 20e de seconde aujourd'hui. C'est pour vous indiquer donc le caractère absolument incroyable de la précision de ces instruments. Il est très probable que la seconde sera prochainement redéfinie comme un multiple de la période d'oscillation de l'une de ces nouvelles horloges. Elles permettent de tester la théorie de la relativité générale avec une précision inégalée. La dépendance du temps avec la position de l'horloge dans le champ de gravitation terrestre dont je vous ai parlé et qui affecte le GPS nous dit que lorsque l'horloge se rapproche du sol d'un mètre, son rythme ralentit d'une fraction égale à 10⁻⁶, soit 1/100 millionième d'un milliardième. L'incertitude des horloges optiques du laboratoire actuel étant de 10⁻⁹, elles sont sensibles à une différence d'altitude d'un millimètre seulement, comme une très belle expérience il y a quelques mois de le confirmer. Ainsi, nous pouvons maintenant constater que les horloges ralentissent lorsqu'on se rapproche du centre de la planète, de la Terre, d'une quantité observable sur des distances plus petites que la taille de l'horloge elle-même. Autrement dit, l'horloge n'indique qu'un temps moyen, qui est celui de son centre de gravité, si vous voulez. Autrement dit, l'horloge ne nous donne qu'un temps moyen qui varie en fait d'un point à l'autre de l'instrument. La courbure de l'espace-temps de la relativité générale devient ainsi observable, et l'image des montres molles de Salvador Dali, qui a été présentée ce matin, je crois, n'est plus une abstraction artistique, mais devient une réalité tangible. Le temps doit être défini à l'intérieur même de la montre. À quoi peuvent servir ces horloges dont la précision aurait sans doute surpris Einstein lui-même ? Il est impossible de prévoir les applications qui en découleront d'ici quelques décennies. On peut cependant évoquer quelques pistes. Étant extrêmement sensibles au champ gravitationnel, leur rythme peut être affecté par d'infimes déplacements de masse dans leur voisinage. En comparant le temps indiqué par des horloges placées en des points différents d'un observatoire sismique, on devrait être capable de détecter de petits mouvements telluriques précurseurs d'un tremblement de terre. L'un des inventeurs japonais de ces horloges est particulièrement intéressé, pour des raisons évidentes, à cette possible retombée de ses recherches. De façon plus fondamentale, on se demande si les temps mesurés par deux horloges asservies sur des éléments atomiques différents, par exemple des atomes d'ytterbium et de strontium, ne dériveront pas l'un par rapport à l'autre sous l'effet d'une très lente variation des constantes fondamentales de la nature. Des recherches se développent actuellement dans cette direction, dont le but est de tester des hypothèses cosmologiques qui prévoient de telles variations. J'espère vous avoir montré que la mesure du temps a accompagné au cours des siècles la passion de la précision, qui est une des caractéristiques essentielles de la physique. On pourrait penser qu'accumuler des décimales à la mesure des fréquences est une lubie gratuite des scientifiques. En effectuant des mesures de plus en plus précises avec des instruments de plus en plus performants, les physiciens ne se sont pas abandonnés à une passion gratuite. Ils ont en fait constamment découvert des phénomènes nouveaux, compris des aspects fondamentaux des lois de la nature et permis d'inventer des appareils qui ont changé notre vie quotidienne. Cette aventure de la science présente une grande continuité. Je n'en donnerai qu'un exemple en guise de conclusion. Le fonctionnement des peines de fréquence, qui fait qu'un laser oscille sur un très grand nombre de modes aux fréquences très régulièrement espacées, s'explique par un phénomène physique qu'on appelle le verrouillage des modes. Ce phénomène qui force les modes du laser à osciller à l'unisson a été observé et décrit pour la première fois par Huygens au XVIIe siècle dans un système mécanique. Alors qu'il était malade et cloué au lit, il constata que deux horloges accrochées au mur en face de lui et qui oscillaient initialement indépendamment l'une de l'autre avaient au bout d'un certain temps tendance à se mettre à osciller à l'unisson. Il s'agit là du même phénomène qui allait trois siècles plus tard s'appliquer au verrouillage des modes des lasers dans les peines de fréquence. Les horlogers atomistes d'aujourd'hui sont ainsi les héritiers du maître des horloges, je crois que le titre de maître des horloges s'applique particulièrement bien à Huygens, qui a été le pionnier de cette passionnante aventure au cours de laquelle, en 350 ans, la précision de la mesure du temps a été améliorée par 15 ordres de grandeur. Et cette progression n'est pas finie. Seul le temps, puisqu'on parle du temps, nous dira jusqu'où elle va nous conduire. Et je termine en montrant ce diagramme qui montre les progrès sur les trois derniers siècles de la précision de la mesure du temps. Le temps est en unité logarithmique en puissance de 10. Vous voyez qu'il y a eu une première pente correspondant à la physique classique. Et lorsqu'on est passé à la théorie de la physique quantique et aux horloges atomiques, micro-ondes et optiques, La pente a été augmentée, la précision a augmenté beaucoup plus vite. On se trouve actuellement à 10-19 et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, quelles sont les applications qu'on pourra en tirer dans le futur. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie.